Radio Kapi.
Affaire meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 au Kasaï. Le colonel Jean de Dieu Mambweni, condamné à 10 ans de prison pour violation des consignes, une cinquantaine de prévenus condamnés à mort et deux personnes acquittées, jugement rendu hier soir par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Baisse les cas de criminalité dans le Haut-Katanga, soit 70% en 2021 comparé à l'année 2020. C'est le résultat des enquêtes monitoring et autres interviews réalisées par le groupe thématique Gouvernance, Sécurité et Paix de la Société Civile du Haut-Katanga, données qui couvrent janvier à décembre 2021. L'invité de ce matin, Belolo Futu Meligo, directeur intérimaire de la prison centrale de Bunia. Il alerte sur le surpeuplement de cette prison avec risque des maladies, de malnutrition et autres. Construite pour 500 pensionnaires, cette prison compte présentement plus de 2000 détenus. Madame, Messieurs, bonjour. Justice tout d'abord. Procès des deux experts de l'ONU tués en 2017 au Kasaï. Le colonel Jean de Dieu Mambweni a été condamné à 10 ans de prison dans cette affaire pour violation des consignes. L'arrêt a été rendu samedi soir par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Deux personnes ont été acquittées, dont le journaliste Raphaël Kamouzadi et l'agent de police Chipamba. Une cinquantaine d'autres prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour avoir participé à la mort de Zaïda Catalane et Michael Sharp. Le compte rendu de François Kadima.
Ce jugement a été rendu pour les 54 personnes poursuivies dans cette affaire de la mise à mort de Zaïda Catalane et Michael Sharp, tués en 2017 à Dibaya au Kasaï. Elles ont été poursuivies pour mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation, détournement d'objets saisis, violation des consignes et terrorisme. Après que le ministère public a retenu la peine de mort pour la majorité des prévenus, la cour militaire a dans son arrêt condamné le colonel Mambweni et acquitté deux personnes. L'officier militaire écope des 10 ans des servitudes pénales pour avoir été avec les deux experts et planifié leur voyage sans en informer sa hiérarchie. La cour l'accuse aussi de non-assistance aux personnes en danger pour n'avoir pas empêché les deux experts d'effectuer ce déplacement. Pour le journaliste Raphaël Kamouzadi et l'agent de police André Chipamba, ils ont été acquittés pour insuffisance de preuves et les morts à leur charge. Les autres prévenus, dont Jean Bosco Mukanda, Bula Bula et Vincent Manga, considérés comme acteurs majeurs dans cette affaire, ont été condamnés à la peine de mort. Signalons que deux accusés considérés comme mineurs lors de la commission de faits ont été renvoyés auprès de leur juge naturel qui est le tribunal pour enfants afin qu'ils soient jugés. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Les États-Unis d'Amérique proposent un nouveau mode de coopération à la RDC pour lui permettre de profiter de son potentiel et de se développer. C'est ce qu'a annoncé hier à Kinshasa Dilip Sine, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis en mission à RDC. Pour lui, ce partenariat passe par plusieurs secteurs, dont l'économie, les ressources naturelles et l'environnement. Les États-Unis espèrent pour cela signer des contrats transparents, durables et inclusifs, dit-il. Toutefois, la sécurité reste une priorité pour la réussite de ce partenariat. Je propose d'écouter le conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis dans cet extrait choisi par Fulbert Balolagué.
Voilà, il faut noter d'abord que la sécurité, c'est un préalable à la prospérité. Et le fait que le président Tshisekedi en a fait une priorité qui est d'apporter la paix dans la partie est du pays, c'est vraiment un aspect important pour le gouvernement américain. Et nous sommes tout à fait prêts à soutenir ces efforts, parce que nous savons que la paix dans un pays permet de mettre en place les conditions nécessaires pour des investissements dans un pays, également pour réduire la corruption et également améliorer les conditions de vie des populations. Voilà, donc votre question est très importante parce qu'en fait, ça nous ramène à ce cycle important. Il faudra restaurer la paix pour que nous ayons une stabilité macroéconomique, également beaucoup plus d'investissements, les retours des investisseurs privés et donc les retombées pour les conditions de vie des populations. Et donc, notre voyage, notre visite ici, c'est aussi un signal fort pour montrer que nous investissons dans cet aspect.
Et puis, un document stratégique de mobilisation optimale des recettes a sanctionné les travaux de la conférence des directeurs de la DGRAD, la Direction générale des recettes administratives domaniales et de participation, un atelier sous le thème « La dématérialisation des procédures, le civisme fiscal et la valorisation du capital humain, gage de la mobilisation accrue des recettes ». Les travaux se sont clôturés hier à Kinshasa. Ce document qui pourrait être enrichi par les services d'assiette, selon le directeur général Jean-Paul Fen Tabala devrait permettre à toutes les directions de la DGRAD d'atteindre les assignations de l'exercice budgétaire 2022. Cependant, cela ne peut se concrétiser sans la mise en œuvre des résolutions découlant de ce forum, comme le souligne ici le directeur général de la DGRAD, Jean-Pierre Fen Tabala, dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima Aouta.
La volonté de tous les participants de s'approprier la vision commune du ministère des Finances, celle de concourir à la mobilisation accrue des recettes, à l'augmentation de l'effort des services, à l'amélioration de la rentabilité du contrôle et de la qualité des services. Les consensus dégagés autour du plan d'action stratégique de mobilisation des recettes 2022 élaboré, qui sera enrichi par les services d'assiette. La détermination de tous les participants à doter la DGRAD de ressources humaines qualifiées et éprises de valeurs éthiques. L'engagement des directeurs en conférence à s'approprier les projets de réforme en cours visant la dématérialisation des procédures, la rationalisation des actes générateurs de recettes et l'élargissement de l'assiette. L'engagement de contribuer à l'accélération du processus de conception, d'examen et d'adoption des textes légaux et réglementaires qui organisent les recettes encadrées par la DGRAD.
Direction l'Ituri, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, est suspendu de ses fonctions par les membres du conseil provincial de la FEC. Annonce faite hier au cours d'un point de presse à Bunia, il est reproché à Boutchou de Kana plusieurs griefs, dont l'incompétence notoire, la mauvaise gestion, le manque de collaboration avec l'autorité établie, ainsi que son silence qualifié de coupable face aux multiples taxes que la FEC juge illégales. Son intérim sera assuré par Arsène Lombou, premier vice-président. Président. Écoutez à ce sujet Daniel Mugisa, l'un des conseillers de la FEC Ituri. Il est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous l'avons destitué. Il y a beaucoup de griefs qui étaient évoqués. La première, il y a de multiples de taxes jusqu'à ce jour. La première taxe, sous le prétexte d'emballage, avec le prétexte d'industrie qui perçoit l'argent sur les marchandises diverses. Ça, c'est la première. Et d'autres qui n'existent pas, industrie, sous le prétexte d'emballage. Et le président garde son silence. Ce sont les semeurs des actes téméraires qui sont là plus de 40 ans dans les mêmes services et qui ont profité dans le silence du président FEC provincial. Je lance un appel d'apaisement à tous les opérateurs économiques dans tous les secteurs du commerce et marchandises diverses et le secteur pétrolier, que les gens soient calmes. Oui, oui.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de Boutchou de Kana, l'incriminé, n'ont pas abouti. Je vous le disais en titre, la criminalité a régressé à plus de 70% dans le Haut-Katanga en 2021 comparé à l'an 2020. C'est le résultat des enquêtes, monitoring et autres interviews réalisées par le groupe thématique Gouvernance, Sécurité et Paix de la Société Civile du Haut-Katanga. Ces données couvrent la période allant de janvier à décembre 2021. Le rapport annuel de cette structure citoyenne publié vendredi renseigne que 19 personnes ont perdu la vie durant cette période. D'autres détails avec Jeff Mbia du groupe thématique Paix, Gouvernance et Sécurité de la Société Civile du Haut-Katanga. Il est au micro de Jean Gandou.
C'est le fruit des interviews, monitoring et documentation des cas de vol simple allant jusqu'au vol à main armée jusqu'à l'assassinat que nous avons enregistré. Plus de 1510 cas dans la province du Haut-Katanga. La ville de Lubumbashi occupe la tête à près de 977 cas. Il faut constater ces baisses de plus de 70% parce que l'année 2020, nous étions à 5400 cas de criminalité. Mais l'année 2021, nous avons constaté cette baisse. Il faut dire que les facteurs favorisants sont également aussi liés au Covid avec les couvre-feux qui a été décrété. Aussi, la sensibilisation de la communauté qui se sont mobilisés. La chaîne de commandement 22e région militaire, 2e zone de défense, mais également le gouvernement provincial qui a mis à la disposition des services de renseignement et sécurité tous les moyens comme des mobilités, moyens financiers pour qu'on puisse arriver à réduire cette criminalité dans la ville de Lubumbashi et dans toutes les grandes villes du Haut-Katanga, pourquoi pas aussi dans les territoires. Il faut reconnaître l'apport des émissions de défense, mais également les éléments des FARDC, 22e région militaire qui sont venus en appui à la police qui était complètement débordée. C'est vrai que les cas sont là, il y a diminution. Nous plaidons qu'il y ait l'amélioration des conditions socio-professionnelles des éléments des FARDC de la police, sans oublier de renforcer leurs capacités opérationnelles en termes de mobilité pour que nous puissions espérer une tranquillité gage de tout développement.
Province du Haut-Katanga, nous apprenons que des miliciens Bakata Katanga du seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gédéon sont de plus en plus nombreux au chef-lieu du territoire de Mitwaba. Les premières informations renseignent que les premiers miliciens sont arrivés avec l'intention de déposer les armes et de se rendre aux autorités. D'autres groupes sont arrivés avec une lettre de leur leader demandant qu'ils soient autorisés de hisser leur drapeau. Les discussions se poursuivent avec les autorités locales. La femme de Gédéon, qui est arrivée sur place, est repartie après avoir échangé avec l'autorité territoriale. Par ailleurs, nous apprenons que le seigneur de guerre Kibamba est mort dimanche dernier à la frontière de Kongolo-Tanganyika et Kabamba-Réomanima. Kibamba faisait partie du groupe rebelle Apanapale, actif dans le territoire de Kabambaré. Il est le jeune frère d'un autre combattant Maïmaï, connu sous le sobriquet de Faujour, actif dans la région qui couvre le territoire de Kongolo-Tanganyika et Kabamba-Réomanima. Plus de détails avec François-Xavier Mibé.
Des sources concordantes dans la région. La mort du seigneur de guerre Kibamba et Maïmaï Apanapale est survenue à la frontière du territoire des Congolos et celui des Kabambaré. Kibamba est tombé dans une embuscade tendue dimanche dernier par les Maïmaï Malaïka actifs au Kabambaré. La Croix-Rouge arrivée en secours dans la région, tout comme les autres services de sécurité, confirme la mort du Maïmaï Kibamba. Ces sources parlent d'une mort atroce que la victime a connue. Ce que témoigne un habitant dans la région. Les Maïmaï Malaïka l'ont mutilé et ont jeté les restes du corps dans un ravin. La population appelle à la neutralisation de tous les groupes armés actifs pour que la paix s'installe. L'école ne fonctionne plus. Les gens mènent une vie d'errance. Nous avons plus de 3000 ménages du côté des Congolos. Les secteurs de Luika dans la coordination des Kaseba. Rappelons que les Maïmaï Apanapale répondent aux commandes du général autoproclamé Mundusi. Les éléments de Mundusi insécurisent une bonne partie de la province du Tanganyika, dans la région qui couvre le nord de Kalemie, celui des Nyunzu et des Congolos, et le territoire des Kabambaré, à l'extrême sud-est de la province du Maniema. Kalemie, François Djabemibe, Radio Kapi.
Du côté du Congo central, les terres de Congo Diakimeza, situées au village Pompage dans le secteur de Palabala, territoire de Songololo, appartenant à 5 clans dont celui de Nangane Congo et Mbenzane Congo, sont désormais sous la gestion de Kinkita Manoka. Les jugements rendus par deux instances juridiques du Congo central viennent de reconnaître M. Kinkita comme ayant droit foncier et coutumier de toutes ces terres. Dans un communiqué dont une copie est parvenue hier à Radio Kapi Matadi, cet ayant droit foncier informe la population du Congo central que pour éviter les conflits fonciers, aucune autre personne ne peut vendre ou faire louer une portion de terre des Congo Diakimeza, si ce n'est lui-même. Explication avec Nana Plurish Mambo.
Dans ses communiqués, M. Kinkita Manoka affirme que les deux jugements rendus d'abord par les tribunaux de paix de Songololo et puis par les tribunaux de grande instance de Matadi les reconnaît désormais en qualité d'endroit foncier coutumier de la terre des Congo Diakimeza qui part du village Kenge jusqu'à celui des Pompages dans le secteur de Palabala en territoire de Songololo. Ces jugements ont aussi donné mandat aux 5 clans propriétaires de cette terre de désigner M. Kinkita Manoka en qualité de leur représentant légal, poursuit ces mêmes documents. Ces derniers ont désormais les prérogatives des gérer toute la terre des Congo Diakimeza, de représenter tous les 5 clans devant les autorités judiciaires, administratives, civiles et militaires. Il détient également la signature de tout contrat de vente et location d'un terrain sur ces sites. Pour éviter les conflits fonciers, cette autorité coutumière met en garde quiconque osera vendre ou faire louer une portion des terres des Congo Diakimeza. Du côté du tribunal de grande instance de Matadi, Piron Sarbonnier et son président affirment que sa juridiction a bel et bien rendu ses jugements. Rappelons que M. Kinkita Manoka remplace à cet office Mme Alphonsine Nzinga Siangani, destituée par les 5 clans propriétaires des terres des Congo Diakimeza. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Culture à présent. Le reporter du feu, c'est le titre du livre qui a été porté sur les fonts baptismaux hier à Goma devant un parterre de journalistes et autres invités. Chronique du jeune journaliste et désormais écrivain Fidel Kita. Le reporter du feu est la somme des comptes rendus de toutes les péripéties, étape par étape à peu près, de l'éruption volcanique du Nyiragongo en mai 2021. Pour l'auteur, il s'agit d'une œuvre conçue pour des raisons de mémoire collective. Fidel Kitsa explique au micro de Jules Ngala.
L'objectif, c'est d'amener les générations présentes, également futures, à revivre l'histoire de l'éruption volcanique de mai 2021. Vous savez, il y a eu l'éruption volcanique en janvier 2002, mais jusqu'à ce jour, il est difficile de retracer l'histoire. Il est difficile de trouver des archives qui parlent mieux de cette éruption de 2002. Alors, je me suis dit, moi, en tant que journaliste, l'éruption de 2021 arrive alors que j'ai toutes mes facultés mentales. Je me suis mis à écrire afin que les générations présentes d'abord et les générations futures puissent revivre l'histoire de ce qui s'était passé lors de l'éruption du volcan Nyiragongo et également rendre cette histoire vivante.
Parmi les difficultés rencontrées par ce jeune écrivain, il relève notamment la problématique d'accès aux sources d'informations, obstacle qu'il a pu franchir en recourant à sa mémoire de journaliste, ajoute Fidel Kitsa.
Actualité Afrique Monde.
5 jours après le putsch qui a renversé le président Roch Marc Christian Kabore au Burkina Faso et au lendemain de la suspension du pays des instances de la CDAO, une délégation de l'organisation sous-régionale est arrivée hier à Ouagadougou. Le Burkina Faso fera l'objet d'un nouveau sommet de la CDAO le jeudi 3 février prochain à Accra, au Ghana. Et d'ici là, d'autres émissaires feront le voyage de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ces émissaires sont là pour évaluer la situation selon une source diplomatique.
L'invité.
Le directeur intérimaire de la prison centrale de Bounia alerte les autorités du pays face à l'explosion démographique dans la prison centrale de Bounia. Selon Belolofoutou Meligo, à ce jour, ce lieu de détention compte 2011 détenus, alors que sa capacité d'accueil théorique est de 500 pensionnaires seulement. Il dit craindre un problème de charge, de prise en charge des détenus, ce qui pourrait avoir pour conséquence l'augmentation des cas de malnutrition, voire des morts parmi les détenus. Belolofoutou Meligo s'entretient à ce sujet avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur Belolofoutou Meligo, bonjour.
Bonjour les journalistes.
Quel est l'état de lieu actuel à la prison centrale de Bounia?
La situation générale est un peu calme, sauf le fameux problème que nous déplorons chaque jour, cette surpopulation carcérale de la prison centrale de Bounia.
Actuellement, on compte combien de détenus au sein de cette maison carcérale?
Actuellement, nous avons 2011 détenus dans une prison qui a une capacité d'accueil de 500 détenus. Donc, à peu près 4 fois de sa capacité d'accueil initiale.
Et parmi les détenus, on compte combien de nombre de prévenus civils et militaires?
Les détenus, nous avons 1600 détenus préventifs et nous avons 409 détenus condamnés.
Alors, comment faire pour désengorger la prison centrale de Bounia?
Activer le plus tôt possible tous les mécanismes nécessaires pour le désengorgement de cette prison ou de cette maison carcérale. Et quand je dis tous les mécanismes possibles, je suis en train d'envisager les mécanismes juridiques, les mécanismes administratifs et voire même les mécanismes politiques. Et si je parle des mécanismes administratifs, parce que dans le plus bref délai, si on pouvait ne fût-ce qu'activer les mécanismes de transfert dans d'autres prisons, ça peut nous soulager un peu. Et quand je parle de mécanismes judiciaires, c'est pour que nos amis de l'autre côté, là je vais parler des offices et des juridictions, d'accélérer avec les dossiers des détenus parce que trop de dossiers sont en souffrance. Je vous ai tout à l'heure là donné l'effectif des nombres de détenus préventifs que nous avons. Et vous allez constater vous-même que non, c'est très élevé par rapport aux condamnés. Parce que même si on accélérait avec les mécanismes de transfert, nous avons combien de condamnés? Parce que le détenu préventif ne doit pas être transféré. Et ceux qui peuvent être transférés, ce sont les détenus condamnés. Et ils sont combien actuellement? Ils sont 409. Même si on prenait tous les 409 détenus pour les transférer dans d'autres prisons. Et nous allons rester avec combien? Avec 1600 idées, donc on n'aurait pas résolu le problème. Donc, du côté de nos amis des juridictions et offices, il est vrai qu'ils éprouvent aussi trop de difficultés par rapport au nombre des magistrats, par rapport à de nombreux problèmes qu'ils disent de leur côté. Mais néanmoins, ils doivent vraiment travailler de façon que beaucoup de dossiers qui sont en souffrance, peut-être ceux qui sont au niveau des parquets soient fixés au niveau des juridictions et ceux qui sont au niveau des juridictions soient prononcés pour que la plupart des détenus connaissent quand même leur sort dans les délais raisonnables.
Alors, M. Bello, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette montée sensible des nombres des passionnaires à la prison de Bounia?
Vous savez, nous sommes dans une zone opérationnelle et nous sommes dans une période exceptionnelle. Et là où les opérations militaires sont en train d'être effectuées, et quand les opérations militaires se font dans notre secteur, il y a des arrestations. Et pour le moment, dans la province de Litouf, l'unique prison qu'on est en train de trouver qui garantit quand même la sécurité de tous ces détenus-là, c'est la prison centrale de Bounia. Et les gens qu'on est en train d'arrêter dans les différents territoires, donc à Arou, à Mahagi, à Djougou, voire même à Mambas, voire même les gens qu'on arrête dans les zones frontalières avec la province du Nord Kivu, c'est la prison centrale qui est en train de recevoir tout ce monde-là. Deuxièmement, ici sur place à Bounia, nous avons que 7 unique établissements carcérales, donc la prison centrale de Bounia. Si, au moins sur place ici, on avait un autre établissement, peut-être qui pouvait avoir les statuts d'un cas de détention, ça allait un peu soulager la prison centrale de Bounia pour que, une fois que les détenus sont condamnés, ils sont directement évacués dans les camps de détention. Mais ici, l'unique maison carcérale joue le rôle de maison d'arrêt, joue le rôle de maison annexe, joue le rôle de camp de détention. Donc, c'est pour cette raison que cette prison centrale de Bounia est même prête à craquer, prête à exploser.
Alors, rapidement pour terminer, si cette situation persistait, qu'est-ce que vous craignez dans l'avenir?
Nous craignons beaucoup de choses que nous sommes en train déjà de vivre parce que vous savez, quand vous avez un tel effectif, ça demande énormément de budget, un budget colossal en termes de prise en charge de tout ce monde-là. Et ça nous pose énormément de problèmes en termes de gestion et la prise en charge de tous ces détenus-là. D'abord, sur le plan alimentaire, il se pose un problème parce que les budgets que nous recevons, par exemple, on recevait un budget pour un effectif de 1000 détenus. Aujourd'hui, ils sont à 2000. Et vous savez, et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner la malnutrition. C'est pourquoi, pour le moment, nous avons un nombre élevé de malnutris dans notre prison. Il n'y a pas d'espace même pour se coucher, pour se détenir là. Et nous craignons le pire en termes de taux de mortalité parce que une fois que le détenu est piqué, par peut-être malaria ou quoi, il sera rapidement peut-être décédé.
Monsieur Bello.
Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier.
C'était là notre invité, le directeur intérimaire de la prison centrale de Bounia, Bello Lofutu Meligo. Il était avec Martial Kizabiamungu. C'est la fin de ce journal, supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.